Il est 11h20, on a Gérard Pince au bout du fil. Monsieur Pince, bonjour. Comme on le dit hors d'onde, il n'y a pas grand-chose à commenter, mais on peut toujours... Je vais allumer la mèche, Monsieur Pince. Et j'espère que ça fera quelque chose d'explosif. j'ai remarqué que... je veux pas non plus casser le sucre sur le dos de Ségolène Royal, M. Pince, mais j'ai remarqué qu'elle a pris ces temps-ci une attitude un petit peu plus agressive à l'endroit de Sarkozy, comme pour faire oublier ses déboires ou enfin ses gaffes. Est-ce que elle sera capable de faire oublier ses bévues qui datent d'à peu près quelques semaines, tout au plus? Pensez-vous qu'elle aura la solidité comme candidate pour faire oublier ses gaffes, quoi?
Ben écoutez, elle a effectivement fait oublier un petit peu ses gaffes avec son discours du 10 février, qui était sur son discours présenté comme le pacte, donc son pacte présidentiel, et qui marque, selon elle, le début de sa campagne. Ce qu'il faut remarquer, c'est que finalement, bon, c'est un discours qui comporte une centaine de propositions qui sont plus ou moins démagogiques et qui ne méritent même pas de grands commentaires.
Oui,
ce sont
ça.
Que des successions de dépenses. Alors 100, ça pourrait être 110, ça pourrait être 150. Enfin, tout cela n'est pas très intéressant. Ça marque quand même deux choses. D'une part, un virage à gauche de sa part qui a été commencé antérieurement d'ailleurs avec ses attaques effectivement, mais qui sont logiques, hein, contre Nicolas Sarkozy, mais aussi un gauchissement très fort sur tout ce qui concerne les problèmes de société, d'immigration, puisqu'elle a,
oui,
elle a manifestement centré, disons, toute son énergie sur la défense d'une jeunesse, mais oui, d'une certaine jeunesse.
Les avez-vous lus, Monsieur Pince? Est-ce que vous avez lu les 100 propositions en question? Parce que moi, je les ai devant moi.
Oui, moi, je les ai lus, effectivement, mais il n'y a pas grand-chose à en retenir. Au niveau de chaque proposition, ben, il y a une dépense, et tous les économistes, en ce moment, sont en train de s'y chiffrer les dépenses. Ça représente à peu près 50 milliards d'euros, et
oui,
comme elle n'a rien dit sur leur financement, puisque son discours est resté complètement muet sur tout ce qui a trait à la fiscalité, bien on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que c'est un gauchissement certain, avec une prise en compte de tous les problèmes de l'immigration, parce
oui,
que c'est un discours qui va dans le sens de l'immigration.
Tout à fait.
Et finalement, le seul élément où elle a été extrêmement vibrante, on peut dire, c'est lorsqu'elle s'est adressée à cette jeunesse des banlieues, et qu'elle s'en est revendiquée comme étant la mère. Et on peut remarquer qu'il y a dans son discours, finalement, dans la nouvelle de son formule de son discours, une sorte de populisme. Ça ne peut pas s'appeler autrement, ce n'est même pas du socialisme. C'est une sorte de populisme, et ça fait penser parfois à celui d'Evita Perón, vous savez. Elle a retrouvé des accents un petit peu prophétiques, je ne sais pas, des accents particuliers pour parler de cette jeunesse des banlieues comme étant l'avenir de la France, et au fond d'une France, d'ailleurs, c'était assez amusant, d'une France dont elle ne veut pas faire la synthèse, n'est-ce pas? Elle a bien dit que la France à laquelle elle aspirait, ce n'était pas la synthèse de l'ancien régime et de la République, parce qu'elle veut évacuer tout ce qui avait trait évidemment à l'ancien régime, ce qui veut dire qu'on évacue à la fois Racine, Corneille, les cathédrales, etc. Tout ça, ce n'est plus la France. Et alors, comme elle s'en est prise aussi à tout ce qui a trait à la colonisation,
oui,
et comme la colonisation, c'est l'œuvre de la République depuis Ferry jusqu'à Guimolet, ben on peut dire que toute la période républicaine non plus, ce n'est pas la France. Si bien que la France, pour Ségolène Royal, c'est au fond la synthèse de la jeunesse des banlieues, du voilà, rap et du hold-up. C'est ça.
Monsieur Pince,
voilà un petit peu l'orientation de son discours.
Ouais.
C'est un discours qui est entièrement tourné, ciblé,
protectionniste,
vers la population des banlieues.
protectionniste aussi, hein. J'ai l'impression aussi que ça sonne ça. Par exemple, je suis sur la 88, là, ici. Proposition, construire une Europe plus protectrice. Mais qui, M. Pince, ne veut pas une Europe plus protectrice, là? Je sais pas, je vous pose la question.
Ben, plus protectrice, ça veut pas dire grand chose.
Ouais.
On ne sait pas du tout.
Et
on
voilà.
ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Vous avez, dans ce domaine, il y a plusieurs propositions. Tous les candidats ont des propositions. Bon. Aucune n'est vraiment convaincante. Bon. Le Pen propose une protection aux frontières de la France. Ça n'a pas de sens. Économiquement, c'est absolument impossible puisque notre économie, 25% à peu près de notre économie est destinée à l'exportation ou à l'importation. Une grande masse des travailleurs, des Français travaillent pour l'exportation. Et on ne peut pas concevoir simplement de protéger un marché intérieur aussi étroit. Bon, d'autres, et c'est le cas de Villiers,
oui.
ou aussi un petit peu de Sarkozy, proposent une protection aux frontières de l'Europe. Bon, on ne sait pas trop là non plus ce qu'ils entendent par là, parce qu'ils n'entrent pas trop dans le détail. Ce que nous avons protégé en Europe, vous le savez bien, c'est essentiellement l'agriculture. Et c'était certainement pas ce qu'il y avait de plus intéressant à faire sur le plan économique.
Oui.
Mais malheureusement, c'est ce qu'on a fait. On a protégé l'agriculture et on a complètement démantelé toutes les protections qui concernent aussi bien le textile que les hautes technologies. Alors il y aurait certainement effectivement à retrouver une protection au niveau de l'Europe. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le décréter tout seul en tant que Français. Or, vous le savez que nos partenaires ne veulent pas en entendre parler, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit les autres pays, même comme l'Allemagne, ils ne veulent pas en entendre parler, parce que l'Allemagne vient de réaliser l'un de ses plus grands excédents commerciaux de son histoire, et la France, dans le même temps, en 2006, vient d'avoir un déficit commercial de 30 milliards d'euros. Donc, les arguments protectionnistes sont toujours un petit peu démagogiques parce qu'ils ne traitent que de la surface des choses. Le véritable problème, c'est comment remettre la France au travail, comment supprimer tous les handicaps qu'elle supporte, comment essayer de délier toutes les entraves qui la freinent, et là-dessus, ben, les deux candidats, ou même on peut dire tous les candidats, sont un peu manquent complètement de perspective. Ils n'ont rien à dire sur ce sujet, ou très peu. Simplement, c'est de l'incantation, comme d'habitude.
Moi, je suis en train de voir aussi une autre proposition, là. J'aimerais avoir vos impressions concernant de garantir l'égalité des droits pour les couples de même sexe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est délicat, M. Pain, je sais.
C'est assez délicat parce que il y a déjà le PACS. Le PACS qui permet de garantir les gens sur le plan patrimonial, sur le plan, etc. Le pacte civil permet déjà de protéger les conjoints de gens qui vivent en dehors du mariage, quelle que soit d'ailleurs leur tendance sexuelle, que ce soit des hétérosexuels ou des homosexuels, peu importe. Bon, ce qui est réclamé maintenant, c'est le mariage homosexuel qui se déroulerait à ce moment-là en mairie, alors que le pacte civil actuel est simplement une démarche administrative qui est inscrite au greffe. Et là, beaucoup font observer, aussi bien notamment au niveau de la droite, bien sûr, que le mariage est quand même un fondement de la société qui implique une différenciation des sexes et que par conséquent, il n'est pas possible d'aller aussi loin. Je crois que c'est un enjeu, si vous voulez, qui concerne une faible minorité, mais une minorité qui est très activiste. Ça revient dans tous les débats, et finalement, on ne va plus parler que de ça pendant la campagne, de l'homoparentalité ou de choses comme ça. C'est en fait un élément extrêmement mineur. Mais vous savez, actuellement, la France et en particulier les médias sont sensibles aux minorités les plus activistes, et donc une minorité qui fait beaucoup parler d'elle, qui a une certaine puissance dans les médias ou autres, arrive à propulser sur devant de la scène des problèmes qui sont quand même relativement secondaires et qui, je le répète, pour l'essentiel, se trouvent déjà traités par le pacte civil qu'on a établi.
Monsieur Pince, est-ce qu'on parle dans ces 100 propositions de faire en sorte que la dette soit effacée, je ne sais pas, de la France, par exemple? Non, oui.
Ségolène Royal a commencé par dire que la dette, effectivement, dans ses propositions, que la dette était insoutenable. Et puis une fois qu'elle a dit ça, ben c'est tout. Elle a proposé 50 milliards de dépenses supplémentaires. Bon. Okay. Alors quand vous proposez des dépenses supplémentaires, il y a deux solutions. Hein. Ou bien vous réduisez d'autres dépenses, mais ça, il n'en est pas question. Ou bien vous augmentez considérablement les impôts, mais ça, elle n'en a pas parlé, puisqu'elle n'a absolument rien dit sur la fiscalité.
Okay.
Ou bien vous laissez, purement et simplement, filer les déficits et filer la dette. Bon, malheureusement, le problème des autres candidatures, c'est qu'elles ne sont pas plus limpides en ce qui concerne la réduction de la dette. Le programme proposé par M. Sarkozy est également très coûteux. On évalue aussi à peu près à 50 milliards le montant des dépenses supplémentaires. Et bon, au niveau des recettes, et bon, on ne voit pas très bien d'où elles peuvent venir. On ne prend pas les problèmes véritablement d'une manière sérieuse. Je vous l'avais dit la dernière fois, il ne s'agit pas de faire 100, 150, 200 propositions, c'est un tissu d'ineptie tout ça. Il s'agit simplement de dire voilà les deux, trois grands problèmes que nous avons et de dire clairement aux Français comment on va les régler. Et pas seulement de distribuer à chaque catégorie sociale une sucette. Ça n'a pas de sens. Mais ça tient aussi à la faible envergure des candidats, et ça revient sur les thèmes qu'on avait évoqués lors de nos précédentes émissions.
Tout à fait, et je me demande là, est-ce que c'est moi ou Ségolène et comment il s'appelle déjà son mari déjà, c'est François Hollande, je pense.
François Hollande, oui.
Oui, c'est drôle. Comment se fait-il que j'ai comme l'impression qu'il déteste à mourir les riches, mais que eux ont de l'argent?
Ah bien sûr, oui, bien sûr. Non seulement, ils font partie des gens aisés.
C'est contradictoire.
Enfin bon, il y a eu toute une polémique là-dessus, effectivement. Ce qui est contradictoire, c'est essentiellement que par leurs déclarations, et on a l'impression qu'il y a une divergence entre leurs déclarations et leurs pratiques privées qui ne sont pas du tout conformes à ces déclarations. Vous avez c'est très bien de dire qu'on n'aime pas les riches et en même qu'on est absolument pour la solidarité nationale, oui. Et en même temps de faire en sorte de contribuer le moins possible à cette solidarité. Il y a quand même une contradiction, mais je peux vous dire que malheureusement ce n'est pas quelque chose qui est particulier, oui, à cette famille politique. Ça fait des années qu'on vit la même chose et ça fait des années que toute la classe politique se moque du monde,
Monsieur
en disant
Pince
aux autres faites ce que je ne fais pas, quoi, pratiquement, c'est ça.
Alors, Monsieur Pince, quelqu'un qui gagne 4000 euros par mois et plus est riche ou pas?
C'est-à-dire 4000 euros, d'après ce qu'ils ont dit, c'est le net fiscal pour un célibataire. Alors ça veut dire, pour un couple, ça voudrait dire 8000 euros, pour avec deux enfants, ce serait 12000 euros. Donc il est bien clair que quelqu'un, par exemple un couple qui a 8000 euros en France aujourd'hui, par mois, hein, 8000 euros par mois, fait partie tout à fait des, même pas des 10% les plus aisés, mais même peut-être des 5%. Il faut savoir que les salaires, alors c'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'en dépit de la dette massive qu'on a accumulée, on se retrouve avec une population qui est de plus en plus paupérisée, au point que des gens qui gagnent effectivement plus de 4000 euros apparaissent comme des gens aisés, alors que ça ne devrait pas être le cas, bien sûr. Et on a laminé les classes moyennes dans ce pays depuis des années, si bien qu'on a prolétarisé tout le monde, et qu'il n'y a plus qu'une minorité, peut-être 10-15% de la population, et moins dans certains cas, qui arrive à toucher des salaires convenables.
Promouvoir la création, ils ont l'air à être quand même, parce que je suis toujours sur ces 100 propositions, ils ont l'air à vouloir encore, à créer encore d'autres types d'organismes. Là. Promouvoir la création d'une organisation mondiale de l'environnement, il n'y a pas déjà le programme de Kyoto?
Mais oui, mais c'est toujours, vous savez, avec les socialistes et avec nos technocrates, avec nos senacs, on a la même chose partout. Dès qu'il y a un problème, on crée un organisme. Et une fois que cet organisme est créé, on y place ses nièces, ses enfants, ses sœurs, etc. C'est une forme, comme j'ai souvent dit, de noblesse qui, au fond, crée des prébendes, hein, qui sont le plus souvent, d'ailleurs, pratiquement devenues héréditaires. Et la société se détruit de cette façon. Regardez, c'est très curieux de voir cette chose. C'est que nous avons une société qui est complètement assistée, qui est de plus en plus assistée, et l'assistance, on le voit bien, détruit la richesse. L'assistance détruit le travail et réduit tout le monde, finalement, à la paupérisation. Voilà le résultat de 30 ans, 40 ans des politiques qui ont été menées en France. Et malheureusement, ce qui est dramatique, c'est qu'à l'occasion de cette présidentielle, on ne voit aucune perspective de réforme. Absolument aucune.
Parce que il y a les points 60 à 68 où est-ce qu'on parle d'environnement et c'est drôle. C'est comme si je répétais chaque point, mais d'une façon totalement différente. Par exemple, que ce soit 60, 61, 62, je le formule avec d'autres mots de vocabulaire. Mais ça, voilà. c'est sympathique, hein? Je sais pas. Est-ce que c'est commun chez vous, ça? Je sais pas.
C'est commun, écoutez, cher monsieur, c'est commun depuis 40 ans, ça fait 40 ans qu'on nous présente des programmes qu'on pourrait d'ailleurs
les
uns sur les autres et qui se traduisent par le même résultat, c'est-à-dire toujours plus d'assistanat, toujours plus de déficit et toujours plus d'appauvrissement pour les classes moyennes. Voilà exactement la situation. Alors, ce qui est grave, vous savez, c'est que quand Hollande a dit qu'il faudrait augmenter les impôts de tous ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois.
Voilà.
Il s'est trouvé 58% des Français pour dire qu'ils étaient d'accord avec cette proposition. Pourquoi ? Bah, c'est normal. Dans un pays où tous les gens, pays où tous les gens sont assistés, où les salaires sont de plus en plus bas, les gens disent, c'est très bien qu'on taxe les gens qui gagnent plus de 4 000 euros. On met à midi qu'à sa porte. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, que contrairement à ce que disent les sondages, pour ma part, je suis assez inquiet,
oui,
parce que je pense que les chances de Ségolène Royal restent fortes.
Non.
Dans la mesure où elle fait un programme tout à fait démagogique, on ne sait pas du tout quelles seront les réactions de cette masse de Français qui a été paupérisée et qui finalement voit dans l'assistance le moyen de sortir de ces difficultés.
Je suis dans la section sécurité-justice. Il me semblait que la sécurité et la justice étaient déjà, monnaie courante du côté de la France. Elle va réinventer la sécurité et la justice, à ce que je peux voir, là, par exemple.
Oui, non, mais on réinvente tout. Vous savez, c'est une France neuve. Ah, alors, il faut tout réinventer. On vous parle d'une France neuve. Elle veut faire d'une France neuve, donc on réinvente tout. En fait, on ne réinvente rien. Ce sont toujours les mêmes bricolages, mêmes rafistolages.
Monsieur Pince,
pour continuer, c'est tout. Ça n'a aucun sens.
J'ai ici le point 50, là. Rétablir la civilité, là. Apprendre la civilité aux enfants.
Mais c'est pardon, j'ai mal entendu.
Rétablir la civilité, le point 50, rétablir la civilité, apprendre la civilité aux enfants, c'est n'importe quoi.
Ben c'est n'importe quoi, bien entendu.
Attendez, monsieur Pain, je suis sûr qu'ils vont déployer, il y a combien d'enfants en France? Je serais curieux de savoir à peu près. Ils vont à peu près déployer, je sais pas, des agents ou des travailleurs sociaux qui vont descendre dans les rues et aller montrer la civilité. Comment être poli, comment être aimable, comment être gentil? Ils vont s'y prendre comment, là? C'est complètement n'importe quoi, là. C'est tordu, là.
Ça ne veut rien dire du tout, mais c'est un prétexte, si vous voulez, pour créer massivement de nouveaux postes de fonctionnaires.
Et voilà.
On parle maintenant de faire des classes avec 17 élèves. Non, mais vous vous rendez compte? Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai fait mes études, on était 40 dans la classe, ça m'a pas empêché de faire de bonnes études. Non, mais c'est n'importe quoi. Et malheureusement, les Français gobent ça, et comme tous les gens sont assistés, eh bien, plus on leur propose d'assistance, et plus ils sont contents. Pour résumer les choses,
oui,
Monsieur Trépanier, les Français sont très malades. Ils sont très malades. Alors, malade. Qu'est-ce qu'on fait quand on est malade, malade dans sa tête, quand on n'a pas d'espoir, quand on n'a pas d'avenir, quand on sent qu'on perd son identité, quand on sent qu'on n'est pas sûr d'avoir un chômage, quand la moitié des Français ont peur de devenir SDF, puisqu'il y a eu des sondages qui montraient cela, qu'est-ce qui se passe quand on est malade comme ça? Ben, il y a deux solutions. La première des solutions, c'est de se bourrer de tranquillisants. Et actuellement, tous ces programmes, ce sont des tranquillisants. On les bourre de tranquillisants, ouais. Quand on est bourré de tranquillisants, eh bien, on subsiste. Et la solution, ce serait la solution, comme l'avait de chef d'État qui serait authentique, ce serait de proposer une véritable chirurgie. Maintenant, allez dire à des gens qui sont bourrés de tranquillisants qu'ils vont devoir supporter une opération. Est-ce que vous croyez que les gens sont contents à ce moment-là? Ils ne vous écoutent pas. Ils disent attendez, donnez-nous encore des tranquillisants. Il n'y a que quand les douleurs sont insupportables que la date de l'opération apparaît comme une délivrance. Ben, c'est la même chose. Tant que les douleurs, je crois, ne seront pas insupportables, les gens continueront à se bourrer de tranquillisants et tout continuera à se déglinguer.
On va faire.
Il n'y a rien à faire.
Monsieur Pince, on va faire une entrevue. Les 100 points de Gérard Pince. Le premier point serait lequel, M. Pince, selon vous, là, c'est vos points. C'est sûr, M. Pince, on n'en fera pas 5 exactement, mais votre premier point, le premier point pour apporter une France qui sera plus en santé, OK?
Oui, alors le premier point qui serait à mettre en œuvre, oui. Ce serait l'arrêt complet de toute immigration. Ça, c'est pour moi, c'est le premier point, parce que cette immigration est ruineuse en termes de prestations sociales, d'indemnités, avec les problèmes scolaires tels que vous les évoquez. Quand on parle qu'il faut réapprendre la civilité aux enfants, c'est pas à mes enfants qu'il faut, ou à mes petits-enfants qu'il faut apprendre la civilité. Vous voyez très bien qui ça concerne. Ça concerne des gens qui sont arrivés de pays qui n'ont pas les mêmes cultures ni les mêmes civilisations que nous, et qu'il faut complètement resocialiser en quelque sorte. Donc ce n'est pas la première mesure, c'est l'arrêt complet de l'immigration. Okay. La deuxième mesure, c'est de faire une nuit du 4 août, si je puis dire, c'est de mettre sur la table tout l'État-providence et de voir tout ce qui n'est plus supportable. Et en particulier, je pense que au niveau des retraites, au niveau de la sécurité sociale, eh bien, il faudra arriver très largement à une privatisation de la sécurité sociale, à des retraites par capitalisation, pour faire en sorte que, de nouveau, les gens retrouvent du pouvoir d'achat et que les entreprises puissent se développer dans un environnement concurrentiel. Il y a deux choses qui sont très importantes, c'est la réforme, au fond, de l'État-providence. On ne peut plus continuer comme ça, et tout le monde l'a dit, tout le monde l'a dit, M. Cantessus, M. Pébrot, pour réduire la dette, on ne peut pas réduire la dette par incantation, monsieur. Pour réduire la dette, il faut réformer complètement de fond en comble l'État-providence. Ça, c'est la première chose. Et la chose qui est liée, oui. C'est évidemment, c'est une des mesures qui est correspondante, si vous voulez, c'est d'arrêter complètement l'immigration avec l'arrivée de 350 à 400 000 personnes chaque année qui créent des problèmes insolubles comme les problèmes de logement. On parle pendant toute cette campagne du logement, mais il y a bien assez de logements en France. Le problème, c'est que dans la mesure où vous faites venir 350 à 400 000 personnes chaque année, comment voulez-vous les loger, surtout que ces personnes sont sans ressources? Voilà les questions réelles qui se posent. Mais ça, personne ne les traite.
Monsieur Pince, Pascal Bruckner, qui est philosophe dans votre coin de pays, il a dit que le multiculturalisme est un échec lamentable. Est-ce qu'il y a des politiciens, à part Philippe Devilliers, qui en a fait part? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire?
Moi, je suis d'accord avec le commentaire, à savoir que le multiculturalisme est un échec complet. Pourquoi est-ce un échec? Bon, vous avez, je salue d'ailleurs, j'en profite pour saluer, oui. Vos compatriotes d'Hérouville, dont on parle dans la presse française. Aujourd'hui, il y a une page du Figaro qui est consacrée au village d'Hérouville.
Bon, incroyable.
qui s'oppose aux accommodements, comme vous dites, au Québec.
Hein.
Mais non, écoutez, il n'y a pas d'accommodement possible avec la barbarie. Hein. On peut avoir des accommodements, bien sûr, mais lorsqu'il s'agit de l'excision, de la lapidation, du fait de battre les femmes, de la polygamie, il n'y a pas d'accommodement. ça je vous l'avais déjà dit la dernière fois, ce n'est pas la peine d'y revenir. Le multiculturalisme, ça pouvait se concevoir, et ça a existé dans beaucoup de pays, ne serait-ce qu'aux États-Unis ou en Angleterre, dans la mesure où, ma foi, des communautés différentes de traditions et de cultures cohabitaient pacifiquement entre elles. Mais ce qui change tout, c'est que vous avez maintenant une communauté qui est la communauté islamique, qui, elle, n'entend pas du tout cela de la même oreille. L'église islamique, il se moque complètement du multiculturalisme et de nos utopies bien pensantes. L'islamisme, c'est une idéologie qui est conquérante, et donc partout, ils veulent imposer des règles et des comportements qui sont inacceptables dans nos sociétés. J'ai vu un certain nombre de femmes voilées qui venaient à Hérouville pour faire du bazar, hein. Voilà tout à fait le comportement des islamistes. C'est un comportement intolérant qui consiste à dire, nous voulons imposer nos règles, n'est-ce pas, aux autres. Or, cela, ce n'est pas tolérable. Et même lorsque ces règles, en plus, sont contraires à la civilisation, on ne peut pas les tolérer non plus. Donc, le problème, il est là. Et donc, je ne crois pas du tout au multiculturalisme. C'était une
solution. Mais pourquoi on nous l'impose?
Années, mais plus maintenant. C'est fini.
Pourquoi, M. Pince, on nous impose ça? Parce que les Occidentaux font pas assez d'enfants? Je sais pas, les Occidentaux font pas assez d'enfants? J'ai aucune idée. J'ai de la misère à saisir. Est-ce que c'est parce que les politiciens ont des pactes avec certaines, je sais pas comment, quel mot employer pour ne pas non plus faire de la discrimination? Mais est-ce que les politiciens ont les deux mains dans la jarre à bonbons, par exemple, avec les rois du pétrole? J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi on a l'impression qu'ils nous foutrent avec une louche, justement, le multiculturalisme au fond de la gorge? Pourquoi? C'est ça que je comprends pas.
Ben c'est très difficile à comprendre, mais je crois que l'une des raisons, vous l'avez évoqué, c'est évidemment la dépendance à l'égard du pétrole. Mais enfin, disons, il ne faut quand même peut-être pas trop l'exagérer non plus.
On ne peut pas
l'exagérer non plus. Il y a l'influence délétère de l'éducation, des intellectuels, et ça on en avait déjà parlé, du marxisme qui s'est recyclé en quelque sorte dans cette espèce de multiculturalisme et de relativisme généralisé. Et malgré tout, il y a des intérêts, je pense des intérêts économiques qui sont en jeu, à savoir que beaucoup d'industriels qui ne peuvent pas se délocalisés à l'extérieur, souhaitent avoir le plus possible d'immigration pour pouvoir peser sur les salaires. Je crois que c'est un élément qu'on ne peut pas évacuer. Hein, et il y en a de nombreux exemples. On a connu ces exemples en particulier avec les informaticiens. Il y avait des compétences informatiques en Allemagne et en France très nombreuses qui se trouvaient au chômage après l'éclatement de la bulle informatique. Et quand les entreprises ont commencé à redémarrer leurs activités, on a fait venir des informaticiens des Indes ou d'ailleurs parce qu'on pouvait les employer à des prix beaucoup plus faibles, c'est-à-dire qu'on employait des informaticiens au prix du SMIC, à 1200 euros, alors qu'il aurait fallu justement, alors que les informaticiens locaux, qu'ils soient allemands ou français, auraient demandé justement 4000, 5000 euros, vous comprenez. Donc il y a dans cette espèce d'universalisme multiculturaliste, il y a derrière tout cela des enjeux économiques qui sont liés à la mondialisation et qui n'ont pas été assez expliqués aux populations, à mon avis.
Que pensez-vous de ce commentaire via le live @rockick.com, Monsieur Prince, que le multiculturalisme mène au multiracisme? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou plus ou moins?
Ah ben tout à fait.
Okay.
Tout à fait, parce que un multiculturalisme qui se réalise dans les conditions actuelles, c'est-à-dire avec la présence d'une communauté qui n'entend pas s'intégrer et qui refuse de s'intégrer, ça ne peut aboutir évidemment qu'à des chocs. Hein, et ces chocs se propageant de part en part, ça conduit à ce moment-là à des affrontements qui sont inévitables entre les différentes communautés. Ça me paraît tout à fait évident. Surtout lorsqu'on est dans une conjoncture économique qui est molle, et où par conséquent les emplois rares doivent être partagés entre de plus en plus de gens. À ce moment-là, évidemment, ça crée une compétition qui aggrave encore, qui accentue encore le ressentiment des uns contre les autres.
Monsieur Pince, c'est toujours un plaisir. On se reparle dans deux semaines et on continue à botter des derrières. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on peut aussi vous voir sur Freedom Academy, Free World Academy, pardon. On peut vous écouter là, justement. Vous faites des petites vidéoconférences. Est-ce que vous en faites aux deux semaines, à la semaine? Comment ça fonctionne exactement?
J'en fais lorsqu'il y a, j'en fais à peu près tous les 10 jours. J'en fais à peu près tous les 10 jours en fonction de l'actualité.
D'accord. Merci, Monsieur Pince. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Alors, c'était Gérard Pince que vous venez tout juste d'entendre. On s'arrête un tout petit instant. On revient après ceci. Les sports et aussi encore quelques faits de l'actualité qui a retenu notre attention. On botte des culs, Wake Up le show. Oui, de 8h à midi, de 14h à 18h. Intervenant de qualité, Gérard Pince, toujours très intéressant. Et il y a un lien, bien sûr, dans les Kick-Ass Link pour aller voir ses vidéos qu'il fait au 10 jours. Merci, restez là.
Everybody be cool, be cool. Rocket.com.